le 6-9 du week-end sur France Inter.
Histoire et politique à 8h51. Bonjour Claude Askelevitch.
Bonjour Patricia.
Nicolas Hulot au gouvernement, c'est la reconnaissance définitive de l'écologie par le monde politique et c'est l'aboutissement d'une vieille histoire.
Et une sorte de fierté, parce qu'après tout, on l'a peut-être oublié, mais la France a été pionnière en matière écologiste, en tout cas dans le discours, dans le verbe de ses gouvernants. Mars 1970, le président Pompidou est aux États-Unis, il donne une conférence à Chicago et là, il se met à philosopher sur l'homme dépassé par le progrès et ses propres inventions.
Il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur. Tel apprenti sorcier, ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées ? La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme.
1970, hein, la question d'une terre habitable à l'homme se posait déjà, Claude ?
Oui, mais pas avec l'immédiateté et l'angoisse actuelle au moment du réchauffement climatique. À l'époque, on est en train de s'interroger philosophiquement. On est dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de prospérité économique, de croissance ininterrompue. On n'imagine même pas que cela puisse finir. Et on est alors saisi par la pollution, par le gigantisme. On commence à s'interroger sur la population, sur les limites de la croissance. Ce seront les travaux de ce qu'on appellera le Club de Rome. Mais ces inquiétudes sont encore irréelles. Juin 1970, consécutivement au discours du président Pompidou, le gouvernement français lance des mesures pour protéger l'environnement. Mais pour présenter ces mesures, le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, nous décrit une apocalypse qui est presque inconcevable.
Il s'agit en réalité de savoir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la vie deviendra par zone absolument impossible et on verra des êtres quasi repoussants, n'est-ce pas, les derniers qui auront réussi à manger les autres, n'est-ce pas, les faire disparaître pour se réserver les quelques derniers mètres cubes d'air respirable, n'est-ce pas, ou les derniers verres d'eau buvables, seront là dans les ruines de nos grandes villes, tandis que des familles entières gémissantes se seront réfugiées quelque part sur les hauts plateaux, dans la montagne, pris entre la pollution atmosphérique qui montera de la vallée, hein, et qui les jettera vers le haut, et l'insuffisance d'oxygène, n'est-ce pas, qui, par l'altitude, risquerait de les faire mourir.
Voilà, Chaban riait presque. Il avait dit dans cette même conférence de presse qu'il aurait bien écrit un film de science-fiction là-dessus, ça l'aurait amusé. Oui, il s'amusait. C'est-à-dire qu'il était sérieux, Chaban-Delmas, mais en même temps, sa légèreté démentait la gravité de ses mots. En réalité, à l'époque, personne ne pensait que nous pourrions disparaître un jour.
Ouais, mais la France avait quand même créé un nouveau ministère.
Oui, parce qu'on ne résiste pas au doute. Le prédécesseur de Nicolas Hulot, à l'époque, s'appelle Robert Poujade, fervent stendhalien et secrétaire général du Parti gaulliste. Il s'installe en 1971, il est ministre délégué, et là vous allez voir, on n'est plus dans la prophétie, mais dans de modestes balbutiements d'un gardien de la nature.
Nous avons été amenés à faire des opérations rivières claires, je souhaiterais poursuivre celles qui sont en cours et engager de nouvelles actions dans ce domaine. Je crois que ce serait particulièrement nécessaire. Je souhaiterais également faire quelques opérations d'ouverture de la forêt au public.
Voilà, on allait se promener dans la forêt. Poujade n'imaginait pas une seconde, par exemple, contraindre la voiture reine de l'époque. Ce n'était absolument pas envisageable.
Oui, enfin, on n'allait quand même pas dire du mal de la voiture quand on était ministre de Georges Pompidou, parce que Pompidou adorait les voitures.
Ah, la Porsche de Georges Pompidou, Premier ministre dans la cour de l'hôtel de Matignon. Oui, Pompidou était le président de la bagnole et de la modernité et de l'industrie, mais en même temps, c'était un homme de culture qui doutait au fond de lui. Il était d'autant plus méritant. On n'allait pas changer nos habitudes, on n'allait pas renoncer au progrès, nous disait ce président.
Personne n'empêchera le développement économique. On n'a jamais empêché le développement économique, on n'a jamais empêché le progrès. Alors, est-il compatible avec l'environnement ? Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement. Ce n'est pas simplement le même environnement qu'avant. À partir du moment où on mène une usine, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il y avait une bergerie, c'est certain. Mais ça n'est pas forcément plus laid. On n'arrêtera pas le progrès. parce que les hommes le veulent, parce qu'ils en ont besoin et parce qu'on n'a jamais rien arrêté en ce domaine. Et par conséquent, le problème, c'est de travailler à faire que l'environnement soit compatible, un bon environnement soit compatible avec le progrès. C'est ce que nous cherchons à faire en France, mais nous ne réussirons qu'à l'échelle internationale.
Voilà Pompidou qui essayait de s'arracher à lui-même. Aujourd'hui, on ne compare plus les bergeries aux usines, mais rien n'a changé. On attend toujours l'international et on lui dit toujours que l'économie sera plus forte en devenant verte.
Merci Claude Daskalovitch.